VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, Eric Manilakidza à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 26 juillet 2023. L'accès à la présidence du Niger à Niamey est bloqué ce mercredi en raison d'un mouvement d'humeur de la garde présidentielle. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, la France condamnent la tentative de coup d'État au Niger et appellent au retour immédiat de l'ordre constitutionnel. Une délégation de la CEDEAO se trouve déjà à Niamey. Au Sénégal, au moins 23 morts dans l'accident d'un autocar dans le nord du pays. Au Kenya, timide espoir de dialogue après des mois de manifestations antigouvernementales. Les 9e Jeux de la Francophonie s'ouvrent vendredi à Kinshasa. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minuteco. Pour l'instant, le journal. La situation reste confuse à Niamey où des éléments de la garde présidentielle retiennent le président Mohamed Bazoum. Déjà l'Union africaine, la CEDEAO et certains pays condamnent ce qu'ils appellent une tentative de coup d'État. Lionel Lunanira Gahima.
Dans un communiqué, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a condamné mercredi, dans des termes les plus vigoureux, la tentative de coup d'État au Niger et appelé à la libération immédiate du président élu. Le président nigérian Bola Tinubu, qui vient de prendre les rênes de l'organisation sous-régionale, a déclaré que le leadership de la CEDEAO n'acceptera aucune action qui entrave le bon fonctionnement de l'autorité légitime au Niger ou dans n'importe quelle partie de l'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis, un important partenaire sécuritaire du Niger, ont par la voix de Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, condamné toute tentative de renverser le gouvernement démocratiquement élu de ce pays et d'y soutenir les actions du président de la CEDEAO, le Nigérian Bola Tinubu. De son côté, l'Union africaine condamne, je cite, « fermement de tels agissements de la part des militaires agissant en totale trahison de leurs devoirs républicains ». L'ONU, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et la France ont aussi dénoncé cette tentative de coup d'État et réclamé la libération du président Bazoum.
Pour en savoir davantage sur ce qui se passe dans la capitale nigérienne, Yakuba Ouedraogo a joint à Niamey. Ousseini Issa, journaliste au quotidien L'Enquêteur.
Ici au Niger et plus précisément à Niamey, la situation, on peut dire, est confuse depuis pratiquement ce matin à l'aube. La présence était d'abord dans un premier temps inaccessible, y compris aux agents qui y travaillent. Ensuite, on a eu l'information selon laquelle des militaires qui sont positionnés à Wanam à une trentaine de kilomètres de Niamey, dans la zone des 3.2, sont descendus à Niamey. Et j'ai fait la confirmation tout à l'heure. Suivant la zone un peu, la zone présidentielle, présentement, toute la zone est quadrillée, tous les services sont fermés, y compris un peu l'hôpital national où c'est devenu inaccessible parce que ce n'est pas tellement loin de l'hôpital national de Niamey. On ne sait pas exactement ce qui se passe pour l'instant. On sait simplement que depuis le matin, le président, selon certaines informations, est entre les mains des militaires présumés. Mais ce n'est pas encore confirmé. On dit simplement qu'il se porte bien, tout comme c'est le membre de sa famille.
D'aucuns parlent de garde présidentielle qui serait à l'origine de ce mouvement d'humeur, on va l'appeler comme ça. Qu'est-ce que vous en savez?
Oui, effectivement, c'est au niveau de la garde présidentielle. Parce que la garde présidentielle, c'est une entité autonome. C'est cette garde qui est chargée de la sécurité du président. Et c'est avec cette garde-là que ça a commencé, parce que c'est la garde qui a pris le président. Les informations qui ont filtré laissent croire que c'est lié au fait qu'il avait l'intention de limoger. Le chef de corps de la garde présidentielle, il s'appelle Général Omar Kani. Il semble qu'il avait l'intention de poser l'acte aujourd'hui et que bon, on s'est retrouvé ce matin avec la situation qui prévaut actuellement. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que les militaires qui sont au niveau de Wanam et ceux qui sont positionnés au niveau des Dossos, qu'est-ce qui les a fait descendre à Niamey? Est-ce qu'ils sont venus en renfort? Est-ce qu'ils sont venus pour essayer de décanter la situation? Pour l'instant, on ne sait pas, on craint chose là-dessus. On a tenté de joindre le ministre de l'Intérieur depuis ce matin, mais son téléphone reste fermé. Il semble que le ministre de l'Intérieur également est entre les mains de militaires présumés.
D'aucuns parlent également de la prise de la télévision nationale. Est-ce que cela est vrai? Et par qui?
On ne peut pas parler totalement de prise. Ils sont là, ils ont fait un mouvement au niveau de la télé. nationale, effectivement.
Quand vous dites ils, vous parlez de qui?
Je veux parler des soldats, des militaires.
Des militaires de la garde présidentielle?
Mais ce n'est pas les militaires de la garde présidentielle qui se sont déployés, y compris dans les parages. C'est les militaires qui sont venus d'ailleurs de Wanam et de Gosso. Les militaires de la garde présidentielle sont juste eux au niveau de la présence de la République. Les fonctionnaires qui sont là-bas, les journalistes qui sont là-bas, ils continuent les émissions normalement.
Est-ce que la vie continue normalement son cours à Niamey?
En ville, les gens circulent, ils vont à leurs occupations, la circulation des transports urbains fonctionne, les marchés sont ouverts, les petits commerces dans les rues fonctionnent.
Les détails donnés par Ousseini Issa, journaliste au quotidien, l'enquêteur rejoint à Niamey par Yacouba Ouédraogo. Idriss Fall vient de joindre le conseiller spécial en matière de sécurité du président Bazoum Abdelaziz Garba Biri Maka qui donne d'autres précisions.
Bon, la nuit a été calme. Moi, le matin, je me suis rendu au bureau comme d'habitude, mais c'était fermé. Les accès étaient fermés et puis... Donc voilà, et là, mon téléphone ne cesse de sonner et j'ai pris quelques amis qui me disent « mais qu'est-ce qui se passe ? Il paraît que le président a été empêché de sortir de son domicile, il paraît qu'il y a un coup d'état en préparation, il paraît que voilà. Donc, ma première réflexe, c'était de me rendre chez le domicile du ministre de l'Intérieur, c'est ce que j'ai fait. Et arrivé à son domicile, donc son épouse m'a fait comprendre que des éléments de la garde présidentielle sont venus le chercher très tôt le matin. Ils sont partis avec lui au niveau de la Villa Verte. Donc voilà l'information que j'ai eue de sa famille. Donc j'étais resté là-bas avec sa famille, avec les échanges que j'ai eus avec quelques collègues de la présidence. On échangeait tellement sur les événements. On a pu comprendre que, bon, effectivement, il y a un mouvement d'humeur de la garde présidentielle.
Quand vous dites mouvement d'humeur, qu'est-ce qui a pu créer cela?
C'est la grande question. C'est la grande question parce que du jour au lendemain, on se lève le matin et on constate cela. Effectivement, c'est le questionnement. Qu'est-ce qui a amené cette extrémité? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qui est derrière réellement? Et comment tout cela a pu arriver sans que ça ne puisse quand même arriver des soupçons? Parce que quand quelqu'un qui est chargé de te protéger et qu'on dit que c'est lui qui te retient, ça pose beaucoup de questionnements à ta réponse pour le moment. Mais on se réjouit quand même d'une médiation de la CEDEAO qui vient d'arriver en Niamey et qu'on espère quand même une issue heureuse à cette situation et que dans les prochaines heures, on espère que tout va rentrer en ordre et que bon, les gens vont se comprendre, ils vont se parler. Et parce qu'on n'a pas besoin de ça. Notre sous-région n'a pas besoin de ça. Notre pays n'a pas du tout besoin de ça. Et nous pensons que vraiment, cette médiation, en tout cas, de la CEDEAO, de Tinibou, ses émissaires et tout ce qui est en train de se faire au niveau national va aboutir sur une issue heureuse et que bon, les gens vont se comprendre et que bon, ça passera derrière nous à partir de demain. C'est notre souhait, Inch'Allah.
C'était Abdelaziz Garba Biri Maka, conseiller spécial en matière de sécurité du président Bazoum au téléphone de Idriss Fall. Les 9e Jeux de la Francophonie s'ouvrent vendredi à Kinshasa. C'est après-demain. Quelques 3000 sportifs et artistes d'une trentaine de pays vont s'affronter lors des compétitions sportives et concours culturels. Un vrai défi pour un État en proie à plusieurs difficultés. Mohamed Onfa.
Le gouvernement et le comité d'organisation des Jeux ont multiplié les visites de terrain et les points de presse pour montrer que la RDC met les petits plats dans les grands et sera à la hauteur de l'événement. Ce sont les Jeux de l'espoir et de la solidarité, répètent les autorités, qui, plutôt que les difficultés du quotidien des Congolais, mettent en avant leur hospitalité et le côté joyeux de la vie quinoise avec ses stars de la rumba et de la sap. Quelques 4500 policiers seront déployés en ville. Une entreprise privée est chargée de la sécurité des aires de jeu et la garde républicaine est appelée en renfort. Attribués en 2019 à la RDC, ces Jeux auraient dû avoir lieu en 2021, mais ils ont été reportés à cause de la pandémie de COVID-19, puis de nouveau en 2022 parce que rien n'était prêt. Car, pour pouvoir accueillir les athlètes, le pays, notoirement dépourvu d'infrastructures, a dû dépenser des dizaines de millions de dollars pour réhabiliter ou construire de nouvelles installations à Kinshasa, plus grande ville francophone du monde, avec plus de 15 millions d'habitants.
23 personnes sont mortes dans l'accident d'un autocar survenu ce mercredi matin dans le nord du Sénégal, a annoncé le président Macky Sall. J'appelle encore à plus de prudence sur la route, a dit le président dans un message publié sur Twitter, rebaptisé X. Le Rwanda a jugé ce mercredi regrettable le refus de l'agrément de son ambassadeur en Belgique, assurant que cela n'augure rien de bon pour leurs relations bilatérales, a déclaré la porte-parole du gouvernement rwandais. Le chef de l'opposition kényane, Raila Odinga, a affirmé ce mercredi qu'il ne dialoguerait avec le président William Ruto qu'en présence d'un médiateur pour mettre fin à plusieurs mois de manifestations meurtrières contre le gouvernement et la hausse du coût de la vie. Plus d'un millier de manifestants ont défilé au Cap ce mercredi à l'appel du plus grand parti d'opposition sud-africain pour dénoncer une loi censée favoriser l'emploi des Noirs dont ils craignent qu'elle mette en place des quotas raciaux. La Chine a rappelé Wang Yi comme ministre des Affaires étrangères, poste qu'il a déjà occupé pendant une décennie.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
La Zambie est éliminée de la Coupe du Monde féminine.
Oui, après leur lourde défaite d'entrée devant le Japon 5-0, les Zambiennes se sont encore inclinées sur le même score devant les Espagnols. Avec deux défaites en deux sorties, la Zambie est out du mondial avant son dernier match pour l'honneur contre le Costa Rica lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupe. Par contre, après un premier succès tout aussi convaincant contre le Costa Rica 3-0, les Espagnols sont assurés de terminer dans les deux premières places du groupe C, qualificatif pour les huitièmes de finale, tout comme le Japon qui a aussi battu le Costa Rica 2-0 un peu plus tôt. Dans le groupe B, le Canada, après une première déception contre le Nigeria 0-0, a lutté pour battre l'Irlande 2-1 et se relance dans la course au tour suivant. Les Irlandaises sont éliminées cette nuit. Les tenantes du titre américaines sont aussi en position de valider leur qualification en huitième de finale face aux Pays-Bas en cas de victoire dans le groupe E, un remake de la finale de 2019. Demain jeudi, dans le groupe B, les Super Falcons du Nigeria voudront décrocher leur première victoire dans ce mondial face aux Australiennes, toujours privées de leur attaquante Sam Kerr, blessée.
Manchester City domine le Bayern Munich de Sadio Mané en match amical à Tokyo.
Manchester City a battu 2-1 le Bayern Munich en match amical de pré-saison ce mercredi à Tokyo. L'entraîneur allemand Thomas Tuchel a complètement changé son 11 en seconde partie, alors que Pep Guardiola a changé 8 citizens à la pause. L'international sénégalais Sadio Mané est entré en cours de match. City jouera contre l'Atlético Madrid dimanche à Séoul, en Corée du Sud, avant de rentrer en Angleterre pour affronter Arsenal le 6 août dans le cadre du Community Shield. Le Bayern Munich jouera encore un match à Tokyo contre l'équipe japonaise de Kawasaki Frontal avant de s'envoler pour Singapour et y affronter Liverpool le 2 août. Les champions d'Allemagne joueront ensuite contre Monaco leur dernier match amical en Allemagne le 7 août.
Ici, en MLS, Lionel Messi, auteur d'un doublé pour son deuxième match avec l'Inter Miami.
Déjà auteur d'un somptueux coup franc sur le fil face à Cruz Azul 2-1 pour ses débuts samedi, la star argentine a encore pleinement contribué à la victoire 4-0 de l'Inter Miami face à Atlanta dans ce tournoi estival organisé conjointement par la Major League Soccer MLS et la Fédération Mexicaine de Football. Il est libéré d'un poids énorme avec la sélection argentine. Cela se voit dans tout, dans sa vie quotidienne, dans ses déclarations, dans sa façon d'aborder les matchs. Léo est libéré et nous pouvons nous attendre à d'autres performances de ce type. S'est réjoui son compatriote et entraîneur de l'Inter Miami, Tata Martino.
Et c'est tout pour les sports. Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Depuis 2015, le Burkina traverse la crise sécuritaire la plus grave de son histoire. Outre les pertes en vies humaines et les déplacements massifs de populations causés par cette crise, les groupes armés terroristes tentent de fragiliser des secteurs clés en ciblant des infrastructures vitales. C'est notamment le cas de la route nationale numéro 16 qui relie le pays au Togo. Au fil des années, cette route est devenue dangereuse, mais récemment, les forces de défense et de sécurité burkinabées ont été déployées dans la zone pour protéger et sécuriser cet axe vital essentiel à l'approvisionnement du Burkina Faso. Notre correspondant Gilles Dasda a effectué le voyage sur la partie la plus à risque de cette voie. Voici son reportage.
Nous sommes sur la voie communément appelée route de Saint-Cancé, à environ 35 km de la frontière avec le Togo. Le balai des gros porteurs se poursuit sur cette route nationale numéro 16, celle qui relie le Burkina au port de Lomé. Un axe des plus stratégiques qui a connu des attaques terroristes il y a quelques mois. Des chauffeurs de bus comme Ahmed en ont souffert.
Avant, lorsqu'on empruntait cette route, il fallait arriver à destination pour être sûr d'être en vie. On n'avait pas le choix, il fallait travailler.
Pour d'autres comme ce chauffeur routier togolais, la frayeur a pris forme lors d'un voyage il y a 5 mois. Un contrôle terroriste à peine quelques kilomètres de la ville de Bitou.
Bon, c'était vers Tempouré, après Bitou là. C'est là-bas aussi. Je suis venu les croiser. Mais ils nous ont fait garer, ils n'ont pas dit quelque chose, ils n'ont rien dit. Ils nous regardaient seulement, après tout, bon, ils sont rentrés dans les villages là, en train de promener, après tout, ils ont viré la route, on n'a pas passé. Ils n'ont rien fait comme mal.
Par contre, ce chauffeur de camion remorque, lui, a vécu des faits bien plus tragiques. C'était à l'entrée de Noao, village situé à 6 km d'ici.
Je suis tombé sur eux. Je ne pouvais pas m'enfuir. Ce jour, ils avaient arrêté beaucoup de personnes sur la route. Ils ont emporté 4 camions remorques de type plateau, ainsi que des voitures d'occasion, au nombre de 4 aussi. Ils ont aussi tué 2 jeunes qui conduisaient leur tricycle. Ils les ont abattus devant nous, puis ils sont partis dans la brousse.
Ensuite, les terroristes vont incendier des camions sur la route, comme l'atteste cette vidéo d'un témoin. Avant, les hommes armés avaient pris le soin de proférer des menaces.
Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus voir les ressortissants de certaines localités, comme Saint-Cancé, Sougournoma, Yargatenga et Bitou. Ils disaient qu'ils allaient mettre ces zones sous blocus.
Cette route vitale est le principal axe de ravitaillement du Burkina, mais aussi du Mali et du Niger. Elle révèle un enjeu économique majeur pour ces pays. Des centaines de camions et cars de transport passent ici chaque jour. Et depuis les attaques, la zone a été fortement militarisée. Et les effets se font déjà ressentir, selon notre routier togolais.
La nuit ou dans la journée, on roule, on n'est pas tranquille. On est en dit merci, même si c'est la nuit, on roule même sûrement en sécurité. Voilà.
D'autres usagers appellent à plus de vigilance.
Ce sont les militaires qui nous aident. Sans eux, cette route serait impraticable. Que les autorités renforcent la surveillance, sinon ce n'est pas simple. On ne peut pas non plus abandonner notre travail, sinon on va mourir de faim.
Son inquiétude est soutenue par des attaques récentes dans des localités non loin de la route. Preuve que ce axe d'importance capitale n'a pas encore retrouvé totalement sa quiétude d'antan. Notamment ce tronçon Tenkodogo-Bitou-Saint-Cancé. Gilles Dasda de retour de la route nationale numéro 16 dans le centre-est du Burkina pour VOA Afrique.
La crise humanitaire au Soudan a une répercussion négative sur le Tchad. Les frontières entre les deux pays voisins sont officiellement fermées depuis le 15 avril, mais les personnes fuyant la guerre continuent à utiliser le couloir humanitaire pour traverser. Débordés par cet afflux, le gouvernement tchadien et ses partenaires font appel aux forces armées françaises. Le reportage de André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, à N'Djamena.
L'appui de l'armée française, c'est une demande conjointe de la part du HCR et de la République du Tchad, dans le sens où on est arrivé à 3000 personnes, à 4000 personnes par jour qui arrivent dans cette zone-là.
Hadjadj Souleymane, responsable du HCR dans la zone d'Adré, pour lui, son institution est débordée par l'afflux des réfugiés qui traversent les frontières par jour.
HCR a loué plus de 79 camions pour le déplacement des réfugiés de la frontière vers l'intérieur. Mais ceci n'est pas suffisant. Dans ce sens-là, on appelle encore une fois, la communauté internationale a s'intéressé plus à cette crise qui a un impact sur la zone et sur la région.
Les deux responsables de l'armée française en charge de l'opération, le colonel Emmanuel et le capitaine Romain, parlent de leur intervention et les moyens logistiques déployés sur le terrain pour aider à relocaliser ces réfugiés à l'intérieur du pays.
L'armée française n'est pas là pour les Soudanais. L'armée française a répondu à l'appel de l'État tchadien qui lui a demandé son concours avec la coordination du HCR. Et c'est bien ce trio de l'armée française, de l'État tchadien et du HCR qui répond surtout à la demande de la crise humanitaire.
On a environ 20 à 30 camions et on effectue donc les rotations entre les différents camps. Donc au quotidien, les choses se traduisent comme vous pouvez le voir actuellement, c'est-à-dire qu'il y a une coordination entre l'UNHCR, la CENAR et mon détachement pour charger en bon ordre les réfugiés, le site d'Ambélia, pour le convoyer jusqu'à le site Bouang.
Le préfet d'Adré, chef lieu du département d'Assonga, Ali Mahamad Sebe, reconnaît que l'afflux de ces réfugiés n'est pas sans conséquence dans sa circonscription.
Nous sommes un peu dévorés par rapport à la ville d'Adré même qui est estimée à 40 000 personnes. Mais aujourd'hui, nous vivons à peu près 150 000 personnes qui nous a rendu un peu la chèreté de vie et aussi vu la concentration de ces réfugiés. Il y a plusieurs maladies qui ont été signalées telles que la rougeole et aussi un certain cas de choléra. Nous inquiétons aussi pour d'autres maladies. Nous avons déjà sensibilisé toute la ville. Et aussi, nous avons lancé la semaine dernière la vaccination contre la rougeole à toute la population d'Adré et aussi les réfugiés.
Le chef de bureau de la CENAR, la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés de la zone du Wadaï, Adoum Mahamad Ahmad, plaide pour que le développement local soit également pris en compte par les partenaires pour soulager la souffrance de la population autochtone.
Aujourd'hui, l'impact que ces personnes locales prennent est énorme. Nous savons que ces personnes locales ont aussi une situation sociale qui est similaire à ces populations qui viennent là parce qu'ils sont vulnérables, ils sont dans le besoin. Alors, la réponse à cela, le chef de l'État a fait l'appel à ce que nous puissions aussi, non seulement penser aux réfugiés, leur prise en charge, mais aussi en même temps imaginer comment nous allons ici apporter des réponses pérennes dans le cadre du développement qui permettront de profiter à cette population-là.
C'est plus de 100 000 réfugiés du camp d'Ambélia qui sont en train d'être transférés avec l'appui logistique de l'armée française sur le nouveau site de Wouran à l'intérieur du pays. C'est une deuxième opération après le transfèrement de plus de 19 000 réfugiés de Borota vers Arkoum. André Kordoumadjingar, de retour du camp des réfugiés d'Ambélia, Adré N'Djamena, pour VOA Afrique.
Au Bénin, le programme d'industrialisation initié par le gouvernement de Patrice Talon commence à porter ses fruits, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Connu pour l'exportation de la quasi-totalité de son coton, le Bénin, depuis la mise en place de la zone industrielle de Glodibé, a décidé de donner un coup de fouet au secteur industriel. Laurent Gangay, c'est le directeur de l'Agence de promotion des investissements et des exportations.
L'État a vu juste de confier la responsabilité de mettre en place toute une unité industrielle de production de textiles, de mettre cela avec un partenaire technique de référence qui nous aide aujourd'hui à travailler dans ce domaine pour essayer de transformer la totalité de notre production de coton. Peraise, en tant qu'administrateur général de la zone, nous avons travaillé main dans la main avec le directeur général de la CIPI pour que les choses se passent dans de bonnes conditions ici à Glodibé, afin que les jeunes recrutés puissent travailler dans de bonnes conditions et que toute la structure qui a été mise en place par la CIPI puisse travailler et fournir ce que les clients ont réclamé.
Le premier client est la chaîne américaine de vêtements pour enfants, The Children's Place. Elle a reçu une première cargaison de 70 000 pièces de polo et collants made in Benin. D'après Letondi Beiton, directeur de la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie, il s'agit d'un contrat d'approvisionnement avec la firme américaine de 700 000 pièces d'ici la fin de l'année.
Cette livraison d'aujourd'hui représente une étape importante dans le développement de l'industrie textile dans notre pays. Si la marque TCP Children's Place nous a fait confiance Ça va faire écho partout dans le monde et les marques de vêtements vont comprendre que désormais le Bénin est une destination qui est capable de leur fournir des vêtements comme le Bangladesh, comme le Vietnam et beaucoup d'autres destinations.
Le Bénin espère exporter d'ici fin 2024 environ 3 millions de pièces de ses vêtements sur le marché américain. Les autorités entendent passer par les USA pour ravir d'autres clients sur le plan international. Les vêtements ne sont pas les seuls produits exportés par le Bénin. Le pays est également devenu un exportateur des noix de cajou transformées localement. 32 000 tonnes ont été convoyées à Dubaï. L'Étendue Béiton se dit optimiste pour l'avenir.
Au Bénin, nous produisons à peu près 200 000 tonnes de noix de cajou et nous avons une capacité de transformation installée d'à peu près 40 000 tonnes. Sur ces 40 000 tonnes, seulement 20 000 tonnes sont effectivement transformées. Mais désormais, nous allons inverser cette tendance et donc dans cette zone, nous allons pouvoir transformer à minima 100 000 tonnes de noix de cajou et nous allons progressivement augmenter la capacité de transformation de cette zone à 200 000 tonnes par an. Nous allons pouvoir augmenter la valeur que génèrent ces noix de cajou brutes. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 468 millions de dollars US pour nos noix de cajou brutes. Quand nous allons passer à la transformation, nous allons pouvoir générer à peu près 1 milliard de dollars.
La zone industrielle de Glodigui reste un hub industriel sous-régional qui révèle le Bénin. C'est une opportunité pour tous. De Cotonou, Ginette Le Adondé pour VOA Afrique.
Mardi, le 25 juillet 2023, jour de célébration du 66e anniversaire de la République tunisienne, a coïncidé avec 2 ans de pouvoir du président Kais Saied. Pour un commentaire sur son bilan, nous avons joint à Tunis la journaliste Frida Darmani.
Alors le bilan, c'est surtout un désenchantement total, parce que ceux qui dansaient le 25 juillet il y a 2 ans, aujourd'hui sont dans le marasme, parce qu'aujourd'hui, quand tout simplement on se retrouve avec faire la queue pour acheter le pain, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Tunisie moderne, jusqu'à ce jour. Et là, c'est ce qu'on vit depuis le mois de mars dernier. Et les pénuries se multiplient, il n'y a pas que la farine qui manque, il manque le sucre, l'huile, il y a eu le café, et ainsi de suite. C'est récurrent. Et donc, on est dans une situation où économiquement, il y a des soucis, malgré une saison touristique qui s'annonce bonne. Mais le bilan politique est terrible, puisque de toute façon, Saïd a écarté pratiquement tous les corps intermédiaires. Et surtout, ce qui s'est passé nous montre aussi la défaillance de l'élite et des revendications d'un peuple qui n'est pas écouté. Parce que Saïd, malgré qu'il se soit présenté, c'est vrai que c'est quelqu'un d'intègre, etc., mais c'est quelqu'un aussi qui avait dit qu'il n'avait pas de feuille de route, qu'il n'avait pas de programme, que son programme lui serait dicté par le peuple. Seulement, il n'écoute pas les revendications du peuple, qui sort dans la rue encore, et ni non plus les différents signes indicateurs qu'il a eus, ou les signaux, les alertes qui ont été donnés depuis 2 ans, entre autres la très faible participation aux élections, le désintérêt par rapport à la chose politique et publique, et voilà, tout ce qui fait que l'opinion aujourd'hui vit tout ça avec beaucoup de distance et attend que, bon, je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais que ça passe. Voilà, on en est là, puis puisqu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Voilà.
Quelle pourrait être l'alternative?
L'alternative, ce serait que Kais Saied, ce serait même un miracle que Kais Saied entende ce qu'on lui réclame. Que Kais Saied arrête de vouloir calquer des choses qui sont pas, ou d'interpréter les choses de la manière qui n'est pas proche du réel. Il n'est pas dans le réel. Et c'est difficile de demander à quelqu'un de se raccrocher au réel quand il n'en a pas l'habitude. Il a sa vision des choses et qui n'est pas du tout une vision partagée. Et même sa vision, il ne la transmet pas totalement. Quand il n'arrête pas de nous parler de rapatrier ou de récupérer l'argent spolié à la nation, on est d'accord. Mais seulement, c'est une mission impossible. Pour la bonne, très simple raison qu'on ne peut pas revenir sur la chose jugée, que les dossiers qui avaient été instruits à leur époque, il y a une dizaine d'années après la Révolution, ont été tous travaillés, que ça a été, les dossiers ont été clos. Il veut revenir sur des choses de ce type-là, ce qui est contraire quand même à un fondement démocratique et un acquis qui est la base de la justice. Donc voilà, tout ça. En même temps, il faudrait une prise de conscience et aussi une prise de conscience de la part de son entourage.
Frida Darmani, journaliste à Tunis. C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Lionel Runanira Gahima assure la mise en onde. Eric Manirakis a été avec vous à ce micro. Continuez à suivre l'actualité 24h sur 24 sur VOA Afrique et sur nos plateformes digitales.